Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous, on vous emmène en train aujourd'hui dans les plus grandes gares d'Europe, des gares qui se réinventent pour devenir de vrais lieux de vie avec plus ou moins de bonheur.
106.000 metri quadri di scavi, cantieri, costruzioni già ultimate, che si affacciano sul piazzale dei 500 e diventeranno la nuova stazione Termini.
Roma, Termini, tout un programme. Les Italiens et les touristes avaient l'habitude de se rendre à la gare de Termini, presque contraints et forcés, tant le quartier et le lieu étaient peu engageants. Désormais, on ira sans doute spécialement à Termini pour son délicieux food market et on prendra plaisir à y travailler en attendant son train. Histoire d'une rénovation exemplaire avec Eric Senanque à Rome.
À Termini, ce sont chaque jour près d'un demi-million de voyageurs qui transitent. 850 trains qui partent ou arrivent quotidiennement de toute l'Italie, de Milan à la Calabre. C'est aussi de Termini que partent deux des trois lignes de métro qui traversent la capitale. Pour tous les Romains, sa gigantesque façade de marbre qui date de 1938 est un symbole du centre-ville. Mais Termini, entièrement revue et corrigée dans les années 50, est en perpétuelle transformation. Aujourd'hui, la gare est en passe de devenir l'un des plus importants hubs ferroviaires d'Europe. Sa surface frise la démesure, 45 hectares, autant que l'État du Vatican. On y trouve un centre commercial avec 140 boutiques, un centre d'affaires également avec ses 90 000 mètres carrés de bureaux. C'est dans l'un d'entre eux que nous accueille Silvio Gizzi. Il est l'administrateur délégué de Grandi Stazioni Rail, la société qui pilote les travaux de transformation de la gare.
Tout est parti de cette exigence, offrir aux clients une expérience de voyage qui ne soit pas seulement limitée à prendre un train propre ou qui soit à l'heure. On est là au contraire pour satisfaire leurs attentes. Il faut un lieu accueillant, un lieu de distraction, un lieu qui soit récréatif aussi. Et Rome a cette particularité. À peine êtes-vous sorti de la gare que vous trouvez les thermes de Dioclétien et les musées du Capitole. C'est sans doute unique au monde. La gare fait ce lien entre l'histoire et la technologie et les usagers y trouvent peu à peu ce mélange des deux qui est tellement agréable à vivre.
Comme beaucoup d'autres gares, Termini a longtemps traîné une mauvaise réputation. Un lieu sombre et froid, mal famé aussi. Dans la Via Giolitti qui longe le bâtiment, les déchets s'amoncellent et le trafic de drogue perdure encore. Mais c'est en transformant la gare, simple lieu de passage en lieu de vie, que Termini peut aujourd'hui trouver une nouvelle identité, Silvio Gizzi.
Les problèmes d'une gare sont résolus quand on se met à la place des personnes qui y vivent. Et pour faire vivre cet endroit, il faut l'équiper soit d'espaces commerciaux, soit de lieux culturels. Nous sommes convaincus qu'en améliorant l'intérieur, cette gare sera encore plus belle de l'extérieur.
C'est un partenariat public-privé de 125 millions d'euros qui permet de financer les travaux de restauration et de modernisation de la gare. Baies vitrées, ouverture à la lumière, installation d'espaces assis pour consulter les tablettes. Le mot d'ordre pour la future Termini est le bien-être. Le dernier chantier en cours est celui d'un parking de 1400 places éclairé aux panneaux solaires qui va enjamber les quais. Les voyageurs n'auront qu'à prendre l'ascenseur pour passer de leur voiture au train. Et puisque nous sommes en Italie, Termini n'a pas oublié non plus la gastronomie. Trois étages sous les bureaux de Silvio Gizzi, nous nous retrouvons dans ce qui est désormais l'un des symboles du renouveau de la gare. Sous ces immenses voûtes de briques, typiques de l'architecture fasciste des années 30, le Mercato Central est un food market où l'on peut déguster les meilleures spécialités de la péninsule. Pâtes fraîches, fritures de poisson, pizza artisanale ou encore les charcuteries de Giorgio.
Ça, c'est une saucisse avec du fenouil. On a le saucisson à la truffe blanche, celui au vin Barolo, celui-là on l'appelle le Fellino, et bien sûr on a du jambon de Parme. On fait aussi des sandwichs, des plats à la mozzarella de bufflone, un peu de tout.
Rendez-vous des gourmets, le Mercato Central et surtout le lieu de sociabilisation qui manquait encore à Termini. Grand succès commercial, on y organise aussi des cours de cuisine ou des soirées dégustation. Ici, on y croise aussi bien des touristes chargés de bagages qui attendent leur train pour rejoindre l'aéroport que les Romains eux-mêmes, comme Carla et Ginevra.
Le mercato a vraiment mis en valeur la gare. D'ailleurs, on ne se croirait pas dans une gare.
Il y a vraiment un grand choix au niveau gastronomique. Il était temps que cette gare change. Elle nous représente. Une gare centrale, c'est un peu la carte de visite de la capitale. Il fallait vraiment que ça change.
Termini est désormais une gare résolument tournée vers l'avenir. Il y a tout juste un mois, Facebook y a inauguré un espace de formation digitale et de coworking, le premier du genre en Italie. Son nom ? Binario F, le quai F, F comme futur.
Et dans la capitale bulgare, Sofia, qui ressemble à un immense chantier, le quartier de la gare ne fait pas exception. Il faut dire que l'on est en train de construire la troisième ligne de métro, ce qui va amener encore de nouveaux voyageurs. À Sofia, Damien Vodenicharov est allé voir ce qui les attend à la gare centrale.
Des voies refaites, une façade retapée, des salles d'attente flambant neuves. La gare centrale de Sofia, rénovée il y a 2 ans, est beaucoup plus accueillante. On peut maintenant y lire la nuit. Le grand hall est illuminé et en hiver, il fait même chaud à l'intérieur. Un grand luxe qui date des travaux. Indispensable quand on sait que la gare centrale, construite en 1974, n'avait jamais été modernisée. Mais l'ambiance devient beaucoup moins agréable dès qu'on sort de la gare. On se trouve alors dans une sorte de no man's land. En 2003, la mairie avait lancé un projet de centre commercial géant de 12 000 mètres carrés. Un fiasco, les loyers étaient trop chers et les magasins n'ont jamais ouvert. Aujourd'hui, les habitants ont surnommé l'endroit les caleçons de Sofianski, du nom du maire Stéphane Sofianski. Une image qui s'amuse de l'immense toile de tente qui surplombe des boutiques vides construites en hémicycle, le labyrinthe de couloirs et des sous-sols mal éclairés, infréquentables. C'est l'ouverture d'une station de métro en 2012 qui a redonné vie à l'espace. Chaque jour, plus de 20 000 personnes empruntent le sous-sol, font la jonction entre le métro, les tramways et les stations de bus à la gare centrale. Aujourd'hui, les architectes se prennent à rêver pour dans 30 ans d'un nouveau centre-ville ou d'un quartier d'affaires. Les projets de rénovation se multiplient, mais pour l'instant, les murs sont tagués de haut en bas, les vitrines de boutiques sont cassées et les kiosques sont pleins d'ordures.
L'équipe, mécanicien et le chauffeur, jettent un dernier coup d'œil à leur machine. Leur machine. En gare, les voyageurs se hâtent vers leur voiture métallique moderne, où ils trouveront les meilleures conditions d'acheminement.
Modernité, on en parlait déjà en 1938 dans ce communiqué des chemins de fer français. Cette fois, c'est le grand chantier pour la gare du Nord à Paris qui doit tripler de volume d'ici 2023. Les comparatifs peu flatteurs avec la très chic gare de St Pancras à Londres, située à l'autre bout de l'Eurostar, ne seront plus de mise. La gare parisienne sera alors very beautiful aussi, c'est promis. Un nouvel étage, une salle de spectacle, des espaces verts et sportifs. Le nouveau partenariat public-privé qui va mettre en œuvre cette énorme transformation promet tout. Reportage à la gare du Nord, signé Pauline Glaise.
Paris Nord, attention à la marche en descendant du train.
À chaque jour, 700 000 voyageurs foulent les quais de la gare du Nord et la qualité d'accueil fait débat. Il y a les clients qui distribuent les bons points. Je pense qu'elle est bien adaptée. J'aime l'idée qu'il y a de l'art un peu partout. Il y a des commerces, eux aussi, très bons. Ça m'a l'air formidable.
C'est formidable.
J'aime les structures métalliques, je me suis toujours senti bien.
Moi, je l'ai connu il y a 10 ans quand j'étais étudiant à Paris, je trouve que c'est beaucoup mieux maintenant. L'environnement est plus sympa. Beaucoup de progrès, j'ai pas beaucoup à m'en plaindre, personnellement.
Et il y a ceux pour qui, malgré les progrès, la vieille dame construite en 1864 puis agrandie à la fin du XXe siècle a besoin d'un bon lifting.
Ça reste un peu vieillot, même si ça a l'air de se moderniser à certains endroits.
Dès qu'on descend dans les sous-sols pour prendre le métro et le RER, c'est dégueulasse.
Et l'extérieur aussi, c'est à revoir. À certains endroits, voilà, il faut passer en apnée. Hein. Bah, c'est des pissoirs. Hein.
À quelques mètres de là, Mandy ne veut ni lifting ni parfum d'ambiance.
La sécurité passe avant tout. S'il n'y a pas la sécurité, même si on met tout et que les gens ne se sentent pas en sécurité, pour vous, c'est rien.
Au micro, la grande majorité des voyageurs dit ne pas ressentir de problème d'insécurité. Mais pour Yves Lefebvre, secrétaire général du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière, la gare mérite sa mauvaise réputation.
C'est un des sites, sinon le site, en pôle position sur Paris, au niveau notamment des vols à l'arraché pour les touristes. D'ailleurs, c'est bien pour ça notamment que certaines, je dirais, ambassades dissuadent leurs ressortissants de passer par la gare du Nord. Et à côté de ça, deuxième grave problématique, c'est le trafic de produits stupéfiants avec des dealers qui sont quasiment à résidence sur le secteur.
Et parce que la gare du Nord qui accueille l'Eurostar est une vitrine pour Paris et la France, une amélioration s'imposait. La SNCF explique que la sécurité sera intégrée à la nouvelle gare en limitant le nombre de recoins par exemple. Mais pour Yves Lefebvre, c'est sur l'humain qu'il faut miser.
La seule solution à faire, ça serait de déployer beaucoup plus d'effectifs, d'appréhender en amont. On nous parle des quartiers de reconquête républicaine. On va pas y aller en tutu. Il faut déployer des effectifs avec des moyens répressifs obligatoires.
Quoi qu'il en soit, le principal objectif de cette rénovation, c'est de désengorger la gare, de faciliter la circulation dans le bâtiment. Visite guidée avec Stéphane Cougnon, le responsable à la SNCF de la transformation de la gare du Nord.
On aura une immense nef qui sera totalement éclairée par la lumière naturelle et des circulations qui nous permettront de monter sur un niveau R+1 que l'on voit au-dessus. Et donc, en montant sur ce R+1, on accédera à ce fameux bâtiment terminal départ vers lequel on orientera tous les passagers grandes lignes.
Autre amélioration en perspective, les liaisons avec les autres modes de transport. La gare routière fera peau neuve et une éco-station d'une capacité de 1200 vélos sera créée. Et ce n'est pas tout. Pour financer cet agrandissement, la SNCF a cherché un partenaire privé, partenaire qui va donc proposer des services marchands sur le site.
L'idée est de faire aussi rentrer la ville dans la gare avec des espaces de restauration. On prévoit également l'implantation de salles de sport, d'une salle de spectacle, d'espaces de coworking. Et puis un marqueur assez intéressant du projet, c'est en toiture des espaces verts qui permettront de participer à la réduction de l'effet îlot de chaleur avec la proposition d'une piste de trail qui permettra aux sportifs de pratiquer en plein Paris avec des vues assez époustouflantes sur le nord-est parisien, la course.
Prenez garde à la fermeture automatique des portes. Attention au départ.
Des travaux qui devraient coûter 600 millions d'euros. Pour financer cette somme rondelette, la SNCF met en place un partenariat avec une entreprise privée. Pendant au moins 35 ans, l'exploitation commerciale sera confiée à une société détenue à 34% par la SNCF et à 66% par l'entreprise lauréate du concours. Et Stéphane Cougnon le promet, ce n'est en rien une privatisation.
Et c'est le cauchemar absolu pour tous les porteurs de projets. La gare de Stuttgart en Allemagne n'en finit pas d'accumuler les problèmes. Voilà 20 ans qu'on annonce la transformation de cet énorme nœud ferroviaire situé dans le land du Bade-Württemberg, dans le sud-ouest du pays. Finalement, les travaux ne seront pas terminés l'année prochaine comme prévu, mais plutôt en 2025. On retrouve pour en parler Déborah Berlioz en Allemagne. Déborah, en quoi ce chantier est-il si compliqué ?
Le projet vise à faire de la gare de Stuttgart un immense nœud ferroviaire souterrain alors qu'elle est aujourd'hui un cul-de-sac. La nouvelle gare devrait ainsi permettre de réduire nettement le temps de trajet vers Munich. Mais les travaux nécessaires sont pharaoniques. Outre la transformation de la gare, il faut construire pas moins de 18 ponts et 33 km de tunnels.
Et à combien doit s'élever la facture de ce gigantesque projet ?
En 2009, le devis était de 4,5 milliards d'euros. Mais depuis, la société de chemin de fer allemande, la Deutsche Bahn, a revu la note et estime désormais le coût final à 8,2 milliards d'euros.
Si on vous comprend bien, le prix du projet a donc presque doublé. Pourquoi ?
Alors les raisons invoquées sont multiples. Du côté de la Deutsche Bahn, on cite notamment une hausse du coût des matériaux. De plus, la roche est plus difficile à creuser que prévu et les archéologues y ont trouvé des squelettes humains vieux de plusieurs milliers d'années. Enfin, des biologistes ont rencontré sur le chantier une espèce animale protégée, les Lacertidae. Ces petits reptiles ont dû être tous déplacés avant la poursuite des travaux. Selon la Deutsche Bahn, ce déménagement seul aurait coûté 15 millions d'euros et causé 2 ans et demi de retard.
Voilà de quoi nourrir la controverse. Comme à Notre-Dame-des-Landes en France, la contestation s'est organisée très tôt à Stuttgart. Que reprochait-on au projet ?
La question financière était déjà importante. De plus, le projet impliquait la destruction d'une partie de la vieille gare de Stuttgart. Or, c'était une des rares gares allemandes à avoir survécu au bombardement de la Seconde Guerre mondiale. La population de la ville s'opposait également à l'abattage d'arbres séculaires dans le parc attenant à la gare. Lorsque les travaux ont commencé en 2010, des dizaines de milliers de personnes se sont mobilisées et ont manifesté tous les lundis contre le projet. La tension atteint son maximum en septembre, la même année. Pour évacuer les manifestants du chantier, la police a utilisé des lances à eau et des gaz lacrymogènes, faisant plusieurs centaines de blessés. La violence des forces de l'ordre a fait scandale dans tout le pays. Pour sortir de la crise, un médiateur a finalement été nommé et un référendum a été organisé en novembre 2011. Les habitants du Bade-Württemberg ont approuvé le projet par une majorité de 58%.
Et si l'opposition était si forte, Déborah, comment expliquer que le projet a finalement été approuvé ?
La question posée était ambiguë et il est possible que de nombreux votants ne l'aient pas bien comprise. L'ironie de l'histoire, c'est que les Verts avaient été élus à la tête du Bade-Württemberg quelques mois plus tôt. Opposants de la première heure du projet, ils sont contraints de le mener à son terme.
Et la contestation s'est-elle arrêtée pour autant ?
Non, et les manifestations du lundi contre Stuttgart 21 continuent. Les opposants ont même esquissé un projet alternatif. Ils proposent notamment d'utiliser les tunnels déjà construits pour y installer une gare de bus. Mais il semble que la nouvelle gare souterraine sera construite malgré tout. Selon la Deutsche Bahn, faire machine arrière coûterait désormais plus cher que de mener le projet à terme. Cela n'empêche pas son actuel chef de prendre ses distances avec le projet. Richard Lutz l'a dit cette année, si la décision était à reprendre aujourd'hui, jamais il ne s'engagerait dans Stuttgart 21.
Merci Déborah Berlioz en Allemagne.
Nous nous contenterons sans regret de ne payer dès ce soir que 3 centimes de plus au litre. Cela nous met tout de même le super à 3 francs 08, l'essence à 2 francs 87, le gazole à 2 francs 03.
La hausse du prix du carburant en 1979, déjà en France. Aujourd'hui, les chauffeurs et autres routiers promettent de descendre dans la rue le 17 novembre prochain. La hausse pénalise au premier chef la France périurbaine et rurale qui ne peut éviter de prendre sa voiture pour aller travailler. Le président de la République a promis des aides défiscalisées et une hausse du chèque transport. Nous allons voir si la situation est aussi tendue chez nos voisins. On retrouve Daniel Vigneron du site myeurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour Frédéric.
Les Français ont-ils raison d'être en colère ?
On peut effectivement se poser la question dans la mesure où, en 2012, le prix de l'essence sans plomb était monté jusqu'à 1,65 euros le litre contre 1,54 actuellement, même si le diesel était resté un peu inférieur au prix actuel. Reste que depuis le début de l'année, nos concitoyens ont subi des hausses de 10% du sans plomb, de 18% du diesel et de 30% du fioul domestique. Ces augmentations s'expliquent en partie par une hausse des taxes au moment où le gouvernement tente de démontrer aux Français qu'il se bat pour leur pouvoir d'achat.
Est-il vrai que l'envol des prix du pétrole explique l'essentiel de la hausse ?
En tout cas, pas tout à fait dans les proportions avancées mardi par le président Macron qui attribue 70 à 80% de l'augmentation au pétrole. En réalité, la hausse du brut explique directement 50-52% du renchérissement du carburant. Donc en gros, un tiers pour les taxes, deux tiers pour le pétrole.
Alors à ce stade, le carburant est-il plus cher en France qu'ailleurs en Europe ?
Non, on ne peut absolument pas dire cela. À environ 1,54 € le litre au début novembre, le prix de l'essence sans plomb se situe au 7e rang européen, à peu près à égalité avec l'Allemagne. À l'inverse, des pays comme la Belgique ou l'Espagne vendent le litre d'essence à 10, voire 20 centimes de moins qu'en France.
Et qu'en est-il du diesel ?
Malgré la forte augmentation de cette année, qui traduit la volonté d'égalisation des taxes entre essence et gazole, le diesel coûte 1,52 € en France, mais encore plus dans 7 pays européens. Enfin, si l'on évoque le fioul domestique, qui a augmenté en France de 30% en un an pour dépasser les 1 000 € pour 1 000 litres, l'Hexagone n'est plus qu'à la 12e place européenne. Par exemple, les Italiens achètent 1000 litres de fioul pour plus de 1 300 €, et les Danois déboursent même 1 450 €.
Mais l'augmentation des prix n'est-elle pas plus forte en France ?
Oui, c'est en partie vrai, et cela permet peut-être d'expliquer que les manifs contre l'essence chère ne se produisent pas ailleurs. Sur le diesel, la France est nettement en pointe avec sa politique de rattrapage. Avec plus de 18% de hausse depuis le début de l'année, elle détient le record européen, même si la Suède, l'Allemagne ou l'Autriche ne sont pas très loin.
Et la France est-elle la seule à avoir augmenté ses taxes en 2018 ?
Pratiquement, puisque les taxes ont seulement augmenté en Belgique. Partout ailleurs, il a sans doute été jugé plus politique de ne pas alourdir l'imposition en période de hausse des prix du pétrole. Mais cette période pourrait toucher à sa fin. La flambée des cours du pétrole constatée entre août et octobre est en effet terminée. Et depuis un mois, le cours a rebaissé de 15%. Cela signifie que vers le début de l'année prochaine, les prix des carburants devraient de nouveau s'orienter à la baisse. Une bonne nouvelle pour le gouvernement s'il veut faire avaler à l'opinion les nouvelles hausses de taxes programmées sur les carburants.
Merci Daniel Vigneron, à très bientôt.
À bientôt Frédéric.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site internet rfi.fr et sur les réseaux sociaux. À demain.